Radio Vatican, France-Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée lundi 14 juin, notamment par le message du pape pour la Journée mondiale pour les pauvres. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira au Mali, en Zambie et au Kenya, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le pape a reçu lundi, en audience privée, tout d'abord, M. Raphaël Mariano Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, suivi de Mgr Tia Lescovari, nonce apostolique en Irak, puis Mgr Julian Barrio Barrio, archevêque de Santiago de Compostela en Espagne, accompagné de M. Alberto Núñez Feijóo, président du Conseil de Galice, puis le père Michael Anthony Perry, ministre général de l'Ordre franciscain des Frères mineurs, et enfin le père Abbé Pierre Najem, supérieur général de l'Ordre maronite de la Sainte Vierge Marie. Le pape a adressé lundi un message à l'occasion de la 5e journée mondiale des pauvres qui se tiendra le dimanche 14 novembre. Ce texte d'une grande densité dans le contexte dramatique de l'explosion de la pauvreté en raison de la pandémie a pour thème cette citation tirée de l'Évangile selon Saint Marc : des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Dans ce message, le pape explique le contexte de cette parole de Jésus en réaction à l'attitude de la femme qui lui a versé un vase de parfum sur la tête, suscitant l'incompréhension d'une partie de l'entourage du Christ. Judas s'offusque de ce qu'il dénonce comme de l'argent gâché, mais en réalité, c'est son propre intérêt qu'il recherche. Il est personnellement intéressé par les 300 deniers auxquels correspond la valeur de ce parfum. Un autre message du pape est celui adressé à M. Michal Kutika, ministre du Climat et de l'Environnement de Pologne, à l'occasion de la 42e session de la conférence de la FAO qui se tient à Rome cette semaine. Pour le pape, la reconstruction des économies post-pandémiques offre l'occasion de renverser la vapeur et d'aider les personnes les plus vulnérables aux crises et aux conditions météorologiques extrêmes. Le paradoxe que François souligne dans ce message n'est pas nouveau, mais il en est pas moins dramatique. Les trois quarts de ceux qui ont peu à manger sont des personnes qui produisent des aliments pour le reste du monde, des agriculteurs vivant dans des zones rurales pauvres. Le pape François s'en attriste dans le message envoyé à Michal Kurtyka, le ministre polonais du Climat et de l'Environnement, qui préside les travaux de la 42e session de la conférence de la FAO, prévue en mode virtuel jusqu'au 18 juin. Une nouvelle paroisse dédiée au Sacré-Cœur de Jésus a vu le jour dans le diocèse de Sokodé au Togo. En la solennité du Sacré-Cœur de Jésus le 11 juin dernier, avec le décret signé par Mgr Célestin Marie Bawilima Gawa, cette érection de la paroisse d'Aouda porte à 22 le nombre des paroisses dans le diocèse de Sokodé. Très satisfaits de cette décision, les fidèles de cette paroisse et les natifs de la localité saluent avec déférence l'ordinaire de Sokodé et son conseil presbytéral. D'abondantes grâces pour cette jeune paroisse qui entre dorénavant dans le concert des paroisses avec des droits et des obligations canoniques selon les dispositions du code en vigueur. Sœur Segereda Johannes, missionnaire combonienne, est la nouvelle secrétaire générale du secrétariat catholique d'Érythrée. C'est ce qu'ont annoncé le 3 juin les évêques de ce pays. Sœur Johannes a enseigné pendant 16 ans, d'abord à l'université d'Asmara, puis à l'Institut de technologie de Maï-Nefi, à 30 km à l'ouest de la ville. Après avoir obtenu un doctorat en médecine moléculaire et avoir servi dans la province des sœurs missionnaires comboniennes, la religieuse aborde sa nouvelle fonction avec une riche expérience qui l'amène à succéder au père Tesfagorgis Kiflom, moine cistercien, secrétaire général sortant après 8 ans de service. À Ouagadougou, au Burkina Faso, la route 50160 qui passe devant la nonciature apostolique porte désormais le nom du pape émérite Benoît XVI. Des détails dans ce reportage.
Le nonce apostolique au Burkina Faso et au Niger, Mgr Michael Francis Crotty, qui a procédé au baptême de la rue Pape Benoît XVI le vendredi 11 juin dernier, en présence des autorités ecclésiastiques, politiques, militaires, paramilitaires et diplomatiques, en donne les raisons.
Je tiens à remercier Monsieur le maire et la commune de Ouagadougou pour l'honneur que vous nous faites en attribuant le nom du Pape Benoît XVI à cette rue. En signe de reconnaissance envers ce pape qui a érigé l'annonciature apostolique à Ouagadougou le 12 juin 2007 et qui a nommé le même jour le premier nonce apostolique résident au Burkina Faso.
Dans le prolongement de la rue Pape Benoît XVI se trouve le rectorat de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, ICAO, et le nonce apostolique s'en réjouit.
Je suis personnellement heureux que le siège de l'ICAO ait désormais pour son adresse physique le nom du Pape Benoît XVI, réputé pour son intelligence et sa vigueur intellectuelle, ainsi que pour son dévouement à la recherche de la vérité.
Au recteur et au personnel administratif de l'ICAO, le nonce fait ce clin d'œil.
J'espère que tous vos efforts académiques s'inspireront de l'exemple du pape Benoît XVI.
Paul Dawagadougou pour Radio Vatican.
Ils étaient environ 1000 enfants venus des diocèses du Grand Nord, Cameroun, pour participer à la toute première édition de la célébration de la journée de l'enfant africain organisée dans la province ecclésiastique de Garoua. L'événement qui s'est ouvert le vendredi 11 juin en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Garoua s'est clôturé dimanche 13 juin en présence des évêques et des autorités administratives de la région du Nord Cameroun. Notre correspondante locale nous en parle avec plus de détails.
Pour un événement d'une telle envergure, organisé en temps de restrictions sanitaires et qui en est à sa toute première édition, l'on peut dire que le pari a été réussi. Pendant 3 jours, les membres de l'Action catholique des enfants, en abrégé ACE Cop Monde, de la province ecclésiastique de Garoua, ont fait retentir l'écho des droits des enfants sous le thème Cop Dynamique, travaillons pour une société plus juste et responsable. C'était aussi l'occasion de soulever les problèmes que rencontrent les enfants au Cameroun, notamment le phénomène des prises d'otages, la violence en milieu scolaire, la sous-scolarisation de la jeune fille et la précarité qui ont d'ailleurs servi de point d'échange. Les enfants du Septentrion ont aussi offert au public une parade d'ouverture, des œuvres d'art et des danses traditionnelles au rythme du Giziga, du Massa et du Kalangu, typique du Grand Nord Cameroun. Par ailleurs, l'on était heureux d'être accueilli à travers une large banderole où était inscrit le mot Djabama en foufoudé qui se traduit par bienvenue en français. L'archevêque de Garoua, Mgr Faustin Mbassandjodo, qui supervisait la rencontre en présence des évêques de Maroua, Ngaoundéré et Yagoua, a exprimé la volonté de la province ecclésiastique de Garoua de s'unir à l'Union africaine pour commémorer le massacre des enfants de Soweto de 1976 et de promouvoir l'éducation ainsi que le bien-être des enfants. Paul Valéry Mondogo de Douala pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Deux soldats maliens ont été tués samedi soir dans le nord du pays lors d'une attaque imputée à des djihadistes et 8 casques bleus ont été blessés dimanche dans l'explosion d'une mine dans le centre, a-t-on appris dimanche des sources militaires, sécuritaires et onusiennes. Les soldats ont été attaqués alors qu'ils déplaçaient leur poste de contrôle d'une centaine de mètres vers une position près de laquelle les assaillants s'étaient embusqués, a dit un responsable sécuritaire. Dimanche, 8 soldats de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, ont été blessés, dont 5 gravement, quand leur véhicule a sauté sur une mine à l'est de Douenza, non loin d'un camp de l'armée malienne, ont indiqué des responsables onusiens et militaires maliens. Par ailleurs, le nouveau premier ministre de transition malien a réuni son gouvernement pour la première fois dimanche en lui assignant une feuille de route très chargée à remplir dans un temps compté avant des élections censées ramener les civils au pouvoir en février 2022. Choguel Kokala Maïga, à la tête d'un gouvernement dominé par les colonels auteurs des deux putschs en 9 mois, a reconnu la gravité d'une période des plus critiques de l'histoire du pays. Le président zambien Edgar Lungu, candidat à sa propre succession à la présidentielle en août, a été victime des malaises dimanche lors d'une cérémonie officielle, a expliqué la présidence après l'interruption de l'événement retransmis à la télévision nationale. Le président a été pris de soudain vertige cet après-midi, a expliqué la présidence dans un communiqué. Il s'est immédiatement rétabli. Monsieur Lungu continue à remplir ses fonctions de chef de l'État, a-t-elle ajouté. Le père de l'indépendance de la Zambie et ancien président du pays pendant 27 ans, Kenneth Kaunda, a été hospitalisé à Lusaka, c'est ce qu'a annoncé lundi son cabinet. Le communiqué a appelé les Zambiens et la communauté internationale à prier pour lui, tandis que l'équipe médicale fait tout son possible pour qu'il se rétablisse. Surnommé le Gandhi africain pour son militantisme non violent, il avait conduit l'ancienne Rhodésie du Nord, protectorat britannique, à l'indépendance sans effusion de sang en octobre 1964. Le gouvernement somalien a appelé le Kenya à rouvrir sa mission diplomatique à Mogadiscio, affichant sa volonté de normalisation et de reprise de relations diplomatiques complètes entre les deux pays. La représentation kényane en Somalie est fermée depuis décembre dernier, quand la Somalie a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec son voisin en réponse aux violations politiques récurrentes et éhontées du Kenya contre sa souveraineté. L'ambassadeur kényan à Mogadiscio avait alors été expulsé et l'ambassadeur somalien à Nairobi rappelé. Le gouvernement somalien a annoncé le 6 mai la reprise des relations diplomatiques avec le Kenya, qui avait de son côté indiqué prendre note de cette annonce et attendre avec intérêt la poursuite de la normalisation des relations par les autorités somaliennes.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le principal parti islamiste en lice, le mouvement de la société pour la paix, a revendiqué dimanche la victoire au lendemain des élections législatives anticipées en Algérie dans l'attente de la publication des premiers résultats. Ces législatives ont été marquées par un taux d'abstention élevé, nouveau signe de désintérêt de la population après le boycott du scrutin par le mouvement contestataire du Irak et une partie de l'opposition.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
Notre magazine du jour sur la santé porte sur la Journée mondiale du donneur de sang célébrée lundi 14 juin pour l'édition 2021. Le slogan est « Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde ». Pour M. Zundi Jean Bosco, président des fédérations des associations des donneurs du sang Burkina Faso, cette journée est une occasion de promouvoir le don de sang dans le monde entier. À sa suite, vous entendrez Dr Alice Kiba Koumaré, directrice générale du Centre de transfusion sanguine du Burkina, qui met un accent particulier sur la sensibilisation au don de sang pour sauver des vies.
C'est une journée pour magnifier l'engagement des donneurs de sang, pour promouvoir d'une manière générale dans le monde entier le don de sang. Peut être donneur de sang toute personne au Burkina Faso, avoir du 8 ans, être en bonne santé, faire donneur de sang.
Le slogan de cette année dit « Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde ». Alors, vous, en tant que donneur de sang, que ressentez-vous en faisant don de votre sang?
Pour nous, donner son sang, c'est un acte citoyen qui n'a pas de prix. Donner son sang, c'est sauver une vie.
Vous accompagnez le centre de transfusion sanguine dans sa mission, mais vous, en tant que fédération, est-il facile de mobiliser des personnes pour faire partie de votre association pour assurer au mieux cette mission qui vous a été confiée par le centre de transfusion sanguine?
Burkina Faso, aucun partenaire technique et financier du secteur du don de sang. C'est dans ce sens que vous comprenez avec nous que l'État seul ne peut pas jouer le rôle. Et nous n'arrivons pas à mobiliser comme il se doit la population. Nous n'arrivons pas à instaurer une culture du don de sang au sein de la population. Pour vous dire, aujourd'hui, la communication coûte cher, ce qui n'est pas facile.
Qu'est-ce que vous aviez à dire aux autres Burkinabés pour qu'ils puissent vous rejoindre dans cette fédération?
Nous sommes à l'abri d'un éventuel bulletin de soins. J'invite ceux qui nous vont encore embrasser le pas de prendre leur bras comme nous en vue de contribuer à sauver les milliers de personnes qui meurent chaque jour par manque de sang.
Merci beaucoup à vous, Monsieur Soundi, président des fédérations, des associations des donneurs de sang du Burkina Faso. Nous allons à présent échanger avec Dr Alice Kiba Koumaré, directrice générale du Centre national de transfusion sanguine du Burkina Faso. Que vous inspire cette célébration de la journée mondiale du donneur de sang?
Alors, cette journée est assez spéciale pour nous, essentiellement le Centre national de transfusion sanguine, les acteurs de la transfusion sanguine, aussi pour les donneurs de sang, en ce sens que c'est une journée qui permet en fait de s'arrêter un temps soit peu et de reconnaître les mérites de ce que ces acteurs-là font pour sauver les milliers de vies dans notre pays. Donc cette journée-là vise à sensibiliser davantage de personnes sur la nécessité de donner le sang, régulièrement surtout, parce que vous savez que le sang est une denrée périssable et il faut planifier la collecte de ce sang-là sur toute l'année, parce que ça ne sert à rien, par exemple, de collecter beaucoup de sang pendant un trimestre et le trimestre prochain ne pas en fait en avoir, parce que c'est une denrée périssable qui a une durée. Et donc, cette journée est vraiment une occasion pour nous pour sensibiliser aussi ceux qui n'ont jamais donné le sang afin qu'ils franchissent le pas, qu'ils franchissent leur peur et qu'ils voient au-delà de leur acte-là la vie qu'ils sont en train de sauver. Cette année, le Burkina Faso a décidé de célébrer cette journée en différé le 19 juin dans une des régions assez reculées du pays, la région du Sud-Ouest, afin de magnifier les donneurs de sang qui se sacrifient tous les jours aux côtés du Centre national de transfusion sanguine pour nous permettre de satisfaire un tant soit peu les besoins qui sont quand même énormes, surtout pendant cette période hivernale où le pays va bientôt être recrudescent.
Aujourd'hui, quel est votre regard sur cette collaboration, sur cet apport de cette association, de toutes ces personnes qui donnent de leur sang pour que votre mission puisse aller de l'avant en sauvant des vies?
Les associations de donneurs de sang au Burkina Faso, ils sont autour d'une trentaine. Et c'est en cela que nous avons émis notre souhait de les voir fédérer afin d'avoir un seul porte-parole. Et aussi, le fait de les fédérer permet d'avoir une synergie d'action et de se nourrir mutuellement entre eux, les associations. Donc, c'est en cela que depuis le 9 mai 2019, toutes les associations, en tout cas la majorité des associations qui œuvrent dans le domaine du don de sang, ont été fédérées. Donc, depuis donc, la mise en place de cette fédération, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de l'action qui est menée maintenant sur le terrain, parce qu'ils parlent ensemble. Et pour vous donner des chiffres, pour l'année 2020, l'ensemble des associations fédérés ont permis de collecter plus du quart de la production du CNTS. En rappel, pour 2020, nous avons pu collecter environ 100 000 poches et un quart autour de 25 000 poches ont été du fait de l'œuvre des associations de donneurs de sang. Donc, c'est une bonne chose et nous comptons en tout cas continuer dans cette lancée-là afin que nous puissions ensemble arriver à l'objectif commun qui nous a été assigné, c'est-à-dire l'autosuffisance en produits sanguins pour le Burkina Faso.
Docteur Alice Kiba Koumaré, directrice générale du Centre de transfusion sanguine, et Monsieur Zundi Jean Bosco, président des fédérations des associations des donneurs de sang du Burkina Faso, il répondait aux questions de Françoise Niamien. Françoise Niamien nous présente à présent la rubrique sur la technologie.
Commençons notre rubrique sur la technologie par cette nouvelle étude qui s'intéresse pour la première fois à l'utilisation du cardiofréquencemètre, des montres et bracelets connectés, non pas comme outil de diagnostic, mais dans le suivi d'une condition cardiaque déjà confirmée. De plus en plus de montres et de bracelets connectés intègrent des capteurs pour mesurer la fréquence cardiaque comme les Fitbit et l'Apple Watch. Ces données sont indiquées à titre d'information uniquement, ces appareils n'étant pas validés pour une utilisation médicale. Pourtant, de plus en plus de personnes consultent en se basant sur les relevés obtenus. Une précédente étude publiée en octobre dernier avait conclu que seuls 10% des personnes qui consultaient pour des données anormales relevées par leur Apple Watch étaient finalement diagnostiquées avec un problème cardiaque. Un nouvel article s'est intéressé cette fois à l'utilisation faite de ces données pour des patients qui avaient déjà un problème cardiaque connu. L'étude a suivi 125 personnes atteintes de fibrillation articulaire et munies d'une Apple Watch ou d'une Fitbit. Leurs données ont été comparées à un groupe contrôle de 500 personnes atteintes de la même condition et choisies pour avoir le même âge et statut socio-économique, mais sans appareil connecté. Les résultats ont montré que les patients équipés d'une montre ou d'un bracelet connecté ne contactaient pas plus souvent leur médecin et les prescriptions étaient similaires au groupe contrôle pendant les 90 jours de l'étude. Toutefois, le premier groupe avait beaucoup plus de chances, 17,6% de subir une ablation, une opération destinée à rétablir un rythme cardiaque normal que le groupe contrôle, 7,4%. La portée de cette étude est limitée toutefois car elle ne s'intéresse qu'aux patients d'un seul hôpital et ne permet pas de savoir si les opérations étaient justifiées par des symptômes plus graves. Les auteurs soulignent le besoin de plus amples études pour confirmer ces résultats et analyser plus en détail l'utilisation des appareils connectés pour le suivi des patients atteints de fibrillation auriculaire. À l'instar des États-Unis, l'Europe va imposer l'installation d'une boîte noire dans tout véhicule neuf vendu à partir de 2022. À partir du 6 juillet 2022, les constructeurs automobiles auront l'obligation d'intégrer dans tous leurs nouveaux modèles destinés au marché européen une sorte de boîte noire destinée à enregistrer les informations techniques. Ces dernières pourront être exploitées en cas d'accident. L'Union européenne entend doter toutes les voitures neuves d'un système inédit de collecte d'informations assimilable à la fameuse boîte noire embarquée sur les avions. L'idée est d'avoir accès à toute une liste précise d'informations techniques relatives aux secondes qui ont précédé et suivi un choc plus ou moins violent. Sont concernées toutes les catégories de voitures particulières et utilitaires, mais pas encore les deux roues motorisées. À noter que seules les forces de l'ordre seront autorisées à avoir accès à ces données, le cas échéant, mais pas les assureurs. Les données concernées sont notamment la vitesse du véhicule, le degré d'activation du freinage, l'angle du volant, l'inclinaison du véhicule sur la route, l'activation ou non de l'ensemble des systèmes de sécurité du véhicule, à commencer par la ceinture. Ce système permettra également d'identifier le type précis du véhicule afin de remonter un accident suspect directement au constructeur. En Côte d'Ivoire, dans le cadre de ses missions d'accompagnement des entités gouvernementales et des collectivités locales à une meilleure appropriation des technologies, le Programme national d'appui aux réformes institutionnelles et à la modernisation de l'État a organisé un hackathon du 11 au 13 juin dernier à la médiathèque de Yopougon. Initié en partenariat avec l'appui de Yop Créalab et avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement, l'Agence française de développement, cette compétition challenge de développement d'applications numériques a démarré vendredi 11 juin sur le thème « Le digital au service des collectivités territoriales et des populations ».
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboileau qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.
Mais